Donc, alors ce soir, le thème de l'étude, c'est Paul et trois de ses compagnons missionnaires. J'ai rajouté Paul parce qu'en fait, je trouvais intéressant de voir un petit peu le profil de Paul. Et puis, parce que son profil à lui aura aussi une implication par rapport à ses trois compagnons. Et on va regarder dans un premier temps. Donc, on sera souvent dans notre Bible. Des fois, je vais vous lire directement les versets. Puis des fois, on va prendre un peu plus de temps, puis on va ouvrir nos Bibles dans les passages cités. Un premier passage, on sera souvent dans le livre des Actes des apôtres, hein. Un premier passage se trouve dans Actes 22, qui nous parle de Paul, de l'apôtre Paul, pour connaître un peu l'origine de cet homme, d'où il venait. Et c'est au moment où il avait été arrêté à Jérusalem. Et puis, vous savez, hein, il va aller jusqu'à défendre sa cause à Rome. Donc, c'est dans cette tranche-là de vie que se situe ce texte. Paul, acte 22, les versets, je lis versets 27 et 28. Et le tribun, c'était un haut officier romain. Étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Parce qu'en fait, on voulait le frapper, on voulait le flageller. Puis Paul, il dit, mais est-ce que c'est permis à un citoyen romain comme ça de se faire frapper sans qu'il y ait un jugement? Et le tribun, pardon, alors, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Donc oui, répond Paul. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Alors, en effet, Paul était né à Tarse, en Cilicie, et c'était une province, c'était un endroit qui était devenu une province romaine, d'où en fait le statut de citoyen romain pour l'apôtre Paul. Hein. Il était citoyen romain de naissance parce que venant de Tarse en Cilicie, Tarse, ça correspond aujourd'hui, c'est une ville qui se trouverait dans la Turquie actuelle, pas très loin, même pas à 200 km en fait de la frontière syrienne, hein, pour la situer à peu près. Donc cette province faisait partie de l'Empire romain. Oui, il y avait une question maintenant. Ah non, j'ai cru, pardon. Alors, lui, le tribun, il avait acheté ce droit de citoyen et Paul, il l'avait depuis la naissance. Et Tarse, donc la ville de naissance de l'apôtre Paul, était une ville qui rivalisait au niveau de ses écoles, celle d'Athènes et d'Alexandrie. Hein, il y avait des écoles très très prestigieuses dans cette ville. C'était pas un coin de péquenaud, entre guillemets. Hein. C'était donc un centre culturel grec. Et la philosophie en vogue à l'époque était la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, c'était une philosophie où, comment faire un résumé de cette philosophie? Moi, j'ai pas beaucoup étudié la philosophie, mais c'était être stoïque, hein. Vous connaissez cette expression. Être calme, hein. Dans toutes les situations, être stoïque, c'est être un peu distant à ce qu'on vit, à distant à ce qui se passe, et puis une personne imperturbable. Ça, c'était le stoïcisme. C'était quelque part relativiser tout ce qui se vivait, mais poussé à l'extrême, ce stoïcisme, en fait, c'était presque comme une abnégation de la vie. Hein. Donc, c'était la philosophie à la mode du temps de l'apôtre Paul. Et Paul était. Paul, en fait, c'était un nom d'origine latine, et puis il avait un second prénom, vous savez lequel? Saul. Et Saul, en fait, ça, c'était un prénom d'origine juive. Ça se disait Shaoul, en hébreu. Alors, on ne sait pas si Paul a suivi des cours dans ces écoles de philosophie, mais ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible que peut-être pour une partie, il a étudié là-bas. Ou pas, on n'en sait pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'était une ville qui était vraiment renommée pour sa culture et ses écoles philosophiques. De plus, la famille de Saul devait être issu d'un milieu assez influent, parce qu'on peut voir que dans les récits de la vie de Paul, il savait comment se défendre au niveau de ses droits civils. Hein, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il ne pouvait pas savoir comment se défendre dans l'Empire romain. Un exemple, c'est lorsque le fils de sa sœur vient l'avertir d'un guet-apens qui est tramé contre lui. Paul appelle le centenier en lui demandant de ce qu'il puisse être conduit vers le tribun. Et c'est justement là, après, on vient de lire ce passage où le tribun va le questionner. Donc, il y a le fils de sa sœur, qui, donc son neveu, qui vient ben on peut lire acte 23, verset 16. Acte 23, verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui apporter. Hein, de cette nouvelle, il en fait quelque chose. Il sait qu'il va pouvoir certainement influencer le haut officier par rapport à ses informations. Un autre cas où on voit qu'il sait comment défendre ses droits, c'est lorsque Paul en appelle à l'empereur pour être jugé par la cour romaine et non par le Sanhédrin de Jérusalem, car il se savait condamné d'avance par les Juifs s'il devait se retrouver devant ce tribunal. Et là, c'est la situation avec le gouverneur Festus de répondre à Paul: Tu en as appelé à César, tu iras devant César. Hein? Donc, on voit que Paul, c'était quelqu'un de malin. Il savait que, parce que Festus, il cherchait à plaire aux Juifs, il savait que si il se laissait conduire de nouveau à Jérusalem, se retrouver devant ce tribunal-là, Paul, son cas était réglé tout de suite. Alors, Paul, étant malin, sachant qu'en tant que citoyen romain, il avait le droit d'en appeler jusqu'à César même, hein, c'est un peu comme aujourd'hui, on ferait appel à la Cour internationale ou à la Cour européenne ou je ne sais pas à laquelle, hein, on fait appel à l'instance la plus élevée pour défendre ses droits. C'est pas, voilà, hein, un simple ouvrier, il va pas faire cette démarche-là. Il peut la faire, mais il sait qu'il sera accompagné avec. Des avocats qui connaissent le droit. Et puis ça veut dire aussi que si un simple ouvrier fait ça, c'est qu'il a aussi des moyens financiers. Hein? Donc voilà. Alors on voit que Paul, c'était quand même quelqu'un d'instruit par ces deux situations que je viens de vous partager. On peut penser aussi que les parents de Saul étaient des gens ayant une certaine aisance financière, car ils avaient envoyé leur fils très tôt étudier à Jérusalem. Hein? Très tôt, même en tant qu'enfant, on peut s'imaginer, Paul a été envoyé par ses parents pour étudier à Jérusalem. Je vous lis acte 22, verset 3. Moi, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, donc à Jérusalem, et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. Qui était Gamaliel? Gamaliel était un des rabbins les plus renommés de l'époque. Donc Saul, pardon. Saul a pu aller suivre un enseignement auprès du plus grand rabbin de l'époque. Hein, donc ça montre que ça devait être un bon étudiant, et puis que forcément les parents, ils avaient des moyens derrière. Parce que voilà, c'est comme si on envoyait son fils dans la plus grande université d'Angleterre ou la plus grande université américaine, ben il faut des pesettes. Hein? Et puis en plus, vous allez étudier avec le plus grand des professeurs. Voilà, hein? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un parcours du genre. Donc, certainement pour Saul, voilà, c'est quand même quelque chose qui atteste que les parents, ils avaient des moyens financiers. Et puis, c'était quelqu'un qui a dû être rapidement remarqué pour son zèle religieux, et il avait intégré le Sanhédrin Là, je vous lis simplement les passages. Après, on va s'arrêter plus longtemps sur d'autres. Hein. Là, c'est Actes 26, verset 10. Paul qui dit: J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints après avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Hein. On voit que Paul, là, était intégré au Sanhédrin et puis il pouvait y voter. Donc, on rejoignait pas le Sanhédrin comme ça par magie. C'est parce qu'il c'était quelqu'un de zélé, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui venait d'une famille influente. On lui a ouvert tout de suite la porte. Et puis, voilà, on connaît hein, toute la persécution que Saul a fait contre l'Église primitive. Mais on sait aussi la suite. Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Hein. Et il était en chemin pour aller persécuter l'Église. Et le Seigneur, dans sa grâce, s'est révélé à lui et le stoppa net dans sa folie. D'ailleurs, Paul dira de lui-même, et là on peut prendre nos Bibles, dans Philippiens 3. Philippiens 3. Au verset 5. Philippiens 3, verset 5. Paul dira de lui-même de cette époque-là, hein, en tant que juif, en tant que zélé dans la tradition pharisienne. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors ici, boue, c'est une traduction gentille. Je ne sais pas comment c'est traduit dans vos Bibles.
Ordure.
Ordure, voilà, on s'approche un peu. Il y a une autre traduction? Alors, un bon français de chez nous, on pourrait dire de la beuse. Hein? Je considère cela comme de la beuse. Hein? Pourtant, on voit, hein? Il venait d'un milieu, voilà, hein? Il était privilégié. Il était dans la ligne de la foi juive, il était pharisien même, hein, c'était un peu l'élite juive. Il était de pure souche, hébreu né d'hébreu, hein, c'était pas un moitié-moitié. Zélé persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il regardait ça comme de la bouse, hein, parce que ça, c'était en fait ce mot grec ici. Qui se trouve là, veut dire en fait c'est des excréments d'origine animale. Bon, on peut traduire aussi par boue, hein, c'est pas faux. Mais pour dire vraiment tout ceci, tout cet héritage-là, l'héritage du Saul, de l'homme juif, il considérait vraiment cela comme de la boue, comme de l'ordure, par rapport à la grandeur de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, on voit que Paul était quelqu'un d'important hein, avant qu'il rencontre Jésus. Il s'était déjà fait une renommée dans son milieu. Il était dans la pure tradition des pharisiens. Il avait également, de par son origine, connu la culture grecque. Il parlait le grec hein, et la culture romaine. Et puis, c'est des choses qui vont l'aider auprès des païens comme des juifs. Hein, il a un peu ce double héritage culturel, et puis même triple, parce qu'il devait connaître pas mal de choses aussi de l'Empire romain. Voilà, c'était quelqu'un d'instruit, il venait pas de nulle part. C'était une personne, on pourrait dire, une personne intellectuellement brillante. En voici deux preuves. Alors, on peut. Oh, je vous lis ça comme ça parce que j'ai écrit le verset. C'est dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui était donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. On voit que ce qu'écrivait Paul, même déjà pour les gens d'époque, certains ne comprenaient pas, parce que c'était quelqu'un d'instruit, c'était quelqu'un avec beaucoup de sagesse, et c'est vrai qu'il était vraiment, par la grâce du Seigneur, hein, bien sûr, mais il était au fond de la doctrine. Hein. Ses écrits, des fois, il faut s'arrêter un moment pour comprendre la pensée du Seigneur. On voit que au temps déjà de l'Église primitive, il y avait des gens qui tordaient le sens de ce que l'apôtre Paul avait écrit. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Donc on voit que Paul c'était quelqu'un d'érudit. Un autre passage où on voit que Paul était quelqu'un d'érudit aussi, Actes 26-25. Comme il se défendait, donc Paul qui se défendait, Festus dit à haute voix, Tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. Hein? Festus, il dit ça, puis peu de temps après, il va dire, Mais encore, tu veux quoi que je me convertisse, que je devienne comme l'un des tiens. Hein? Puis Paul va dire, Oui, si ce n'est les chaînes. Donc, hein? Festus reconnaissait dans ce qu'il entendait par rapport à Paul, il reconnaissait que c'était un homme instruit, un homme qui avait une grande sagesse, et de lui dire, Tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. Acte 26, 25. Donc voilà, pour un peu l'arrière-plan de Paul, c'était quelqu'un de distingué, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de zélé pour Dieu, et puis toutes ces qualités-là, au moment où il s'est tourné vers le Seigneur, où Dieu s'est révélé à lui dans sa grâce, eh ben, ces qualités-là, elles ont été aussi utiles pour l'annonce de l'Évangile. Parce que tout de suite, il va commencer à annoncer l'Évangile. Et puis, il va séjourner 3 années dans le désert et à Damas. Et à cause de la persécution, il va aller à Jérusalem. Non, je me trompe. C'est pas à cause de la persécution. Alors, on va lire Acte 9, verset 25. Acte 9, verset 25. C'est au bout de 3 ans, Paul va en fait aller pendant 2 semaines à Jérusalem. Il va aller trouver Pierre et les autres disciples, hein. Il n'aura pas été tout de suite à Jérusalem. Il va passer du temps à évangéliser. Puis on peut s'imaginer que dans le désert et à Damas aussi, il a passé du temps pour peut-être comprendre vraiment l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis il va, au bout de 3 ans, donc aller à Jérusalem. Et puis là, Paul, la persécution commence pour lui. Je lis Acte 9, verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Voilà. Non, alors ça, je me suis trompé. Je me suis trompé, hein. Alors, ça, cet événement-là, en fait, c'était bel et bien à Damas. À un moment donné, à Damas, ça chauffe pour lui. Alors, je me suis trompé, je reviens. J'ai quand même pas mal d'informations dans la tête. J'ai mal connecté. Alors, non, il est là, en fait, en train de fuir, pas Jérusalem. Il va aller après à Jérusalem. Il est en train de fuir Damas. Et puis, on voit que il y a les disciples qui vont le prendre et puis ils le descendent par une corbeille. Hein. Donc, vraiment, Saul va connaître la persécution assez rapidement. Et puis, c'est d'ailleurs de là, qu'on dit qu'il est l'inventeur du télésiège. Hein, vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est historique là ce que je vous dis? Non, mais en effet, hein, c'est le premier homme qui est descendu dans une corbeille. Donc voilà. Et puis le pauvre, il n'a pas fini de souffrir, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux disciples hein, de Jérusalem, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc au début, ben Saul, tous les disciples se mettent à distance de lui parce que ben, ils le connaissaient, hein, et sa renommée était grande. Et puis ils ne savaient pas si la personne, elle s'était franchement convertie. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter? Ou est-ce qu'il dit ça pour juste prendre des noms parmi nous et puis ensuite se retourner complètement contre nous? Et il faut Barnabas qui arrive et qui va ouvrir l'église de Jérusalem pour notre frère Saul. Hein? Donc sans Barnabas, là, la connexion avec l'église à Jérusalem ce serait pas faite. Alors on continue au verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Hein? Donc il est à Jérusalem. Très rapidement, la persécution vient, mais cette fois, la persécution ne vient pas des Juifs, mais des hellénistes. Alors les hellénistes, c'était qui? C'était des gens qui avaient adopté les coutumes, les manières, voire même les cultes d'origine grecque. Hein? Et ce terme pouvait être utilisé autant pour qualifier des juifs qui s'intéressaient à la culture grecque que des Grecs eux-mêmes. Hein. Donc, tout d'un coup, il y a des gens là qui sont des pro-grecs, entre guillemets, et qui vont chercher à faire mourir notre ami Saul. Et il doit fuir en Césarée et de là partir pour Tarse. Et à Tarse, en fait, il va faire 10 ans dans cette ville. Et à Tarse, on se rappelle, ben, il revient dans sa ville natale. Et là, pendant 10 ans, il va servir le Seigneur, dans l'évangélisation certainement, d'autres manières aussi. On n'a pas vraiment le témoignage de ce qu'il a fait là-bas, mais voilà, il s'est déjà passé 13 ans depuis sa conversion. Hein. C'est long. Quand on pense aussi tout l'héritage qu'a eu cet homme culturel déjà avant, c'était quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament comme aucun de nous le connaît. Je présume. Et puis après, encore 13 ans, 13 ans avant que Dieu vraiment l'utilise au niveau de la mission. Et quel va être ce point de départ? Ben, ça va être Barnabas, en fait, qui va venir rechercher l'apôtre Paul. On verra pourquoi, quoi il n'était pas encore, entre guillemets, il n'avait pas encore ce titre-là. Hein, c'est Barnabas qui va venir rechercher Paul à Tarse pour le conduire à Antioche. Hein, on verra ça dans un petit moment. Alors, maintenant, on va passer au deuxième personnage. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'était clair. Hein? Je suis juste brouté là sur l'histoire de quelle muraille il a descendu, notre pauvre. Vertigineur, là, il devait pas. Ça devait claquer des dents en descendant là. Donc, non, c'était bel et bien à Damas hein, qu'il était pourchassé, qu'on contrôlait les portes et qu'il était obligé de fuir la ville de cette manière-là. Alors, un deuxième personnage, c'est Barnabas. Barnabas qui était un lévite. On va lire Acte 4. C'est vraiment Barnabas, c'est un des premiers disciples, un des premiers chrétiens aussi. Acte 4, verset 36. Je lis, acte 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, Barnabas venait d'où? Pas de Jérusalem, hein, mais de Chypre. Chypre, vous connaissez. Voilà, une île qui est quand même à une certaine distance de Jérusalem. Et puis, il faisait partie de la tribu des Lévites. Hein, c'est la tribu, c'était de là où tous ceux qui pouvaient s'impliquer dans le temple, voilà, il fallait être Lévite pour pouvoir s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans le temple. Et puis, on voit que Barnabas est parmi les premiers convertis à Jérusalem. Et c'est quelqu'un qui devait aussi avoir des moyens financiers, car bien que venant de Jérusalem, il avait des propriétés, des terrains à Jérusalem. Hein. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'était certainement un champ qu'il avait dans la région, dans la contrée de Judée, parce que s'il avait vendu quelque chose à Chypre, ben, le temps il aurait dû aller à Chypre, vendre son truc, revenir ici. Hein? À l'époque, il n'y avait pas les chèques ou bien on ne pouvait pas faire un clic des souris pour faire verser l'argent si on vendait une propriété loin de là où on se trouvait. Donc, il avait des terrains dans la région de Judée et puis il est dit un champ, il vendit un champ, il ne s'est pas marqué son champ, donc il a dû vendre un de ses champs. Et puis, on voit un des traits ici de caractère de Barnabas. Il dépose l'argent aux pieds des apôtres, c'est-à-dire il fait une totale confiance aux apôtres. Il amène l'argent, boum, voilà, pleine confiance, c'est l'argent pour le Seigneur, c'est vous qui êtes les gérants de ceci, que Dieu vous conduise dans ce que vous devez en faire. Faire confiance, c'est bien. Et puis, on voit que on verra que c'est quelque chose d'utile pour l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'un serviteur de Dieu puisse faire confiance aux gens. D'ailleurs, c'est cette confiance-là qui a permis que Saul soit intégré à l'église de Jérusalem. Barnabas a fait confiance. Il a dit, non, moi, je crois que cet homme, il s'est vraiment converti. Je sais qu'il prêche l'évangile avec fougue chez lui, à Damas. Ou quoi, où il était avant, je lui fais confiance. Je lui ouvre la porte de l'église de Jérusalem. Hein. C'est un homme qui faisait confiance. Mais des fois, la confiance, c'est bien, mais des fois, c'est moins bien. Et puis, on verra que ça, pour Barnabas, ça n'a pas toujours été une bonne qualité. Hein. Voilà. Alors, Barnabas, c'est un nom araméen qui veut dire « fils de prophète » ou « fils de la prophétie ». Et la Bible nous dit aussi que c'était un sens qu'avaient donné les apôtres, hein, qui signifie « fils d'exhortation ». Donc voici un frère qui devait être apprécié par les chrétiens de l'époque, car il était généreux, hein, il faisait don de ce que Dieu lui avait donné, on voit par rapport à la vente de ce terrain. Il faisait confiance aux gens, et en plus c'était un fils de la prophétie. Il était reconnu pour son discernement, reconnu pour son don de prophétie et reconnu pour son don d'exhortation, d'encouragement. Qui n'aurait pas voulu travailler avec une telle personne, hein? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont pris plaisir de travailler avec Barnabas. Et puis, quelque temps après, arrive un réveil parmi les Grecs, et un réveil parmi les Grecs à Antioche. Alors, on va lire, c'est acte 11. Acte 11, 19 à 24. Je fais la lecture parce qu'en fait, comme ça, ça pour l'enregistrement, c'est mieux. Alors, acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme plein d'esprit, un homme, pardon, de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc là, on a un réveil parmi les païens. C'est la première fois qu'il y a vraiment une grande conversion parmi les païens. Et puis, on voit comment ça se passe. Hein? Il faut quand même des gens qui aient la sensibilité de la culture grecque pour pouvoir parler aux gens qui sont là et que tout à coup, le cœur des Grecs s'ouvre. Hein? Et face à ce travail-là, l'église de Jérusalem, tant qu'il y a un réveil parmi les païens, ils se disent, il faut qu'on envoie Barnabas parce que Barnabas, venant de Chypre, il va pouvoir leur parler en grec, il connaît un peu la culture grecque. Et puis, devant l'ampleur du travail, devant le grand réveil, Barnabas, il pense à quoi? C'est un homme sage, intelligent. Il dit pas, ouais, je vais pouvoir faire ça tout seul, on y va, ça va être génial, je vais me faire une église à mon nom. Il dit, non, il faut que j'aille chercher Saul. Parce que Saul de Tarse, celui-ci, il a quelque chose, j'en suis certain, à apporter dans la maison du Seigneur. Alors, on voit comment les choses se font, hein, comment les pièces du puzzle se mettent en place. Et puis que Dieu, il utilise aussi des gens qui sont qualifiés pour ça. Il fallait un Saul de Tarse ici pour pouvoir amener vraiment l'Église dans la croissance, faire le lien aussi avec la culture grecque, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec aussi. Hein. Et puis que vraiment cet évangile puisse pénétrer les nations. D'ailleurs, on dira de Paul qu'il est l'apôtre des païens. Hein. On voit qu'il y a tout un temps de préparation, 13 ans, qui vont s'écouler avant que l'apôtre Paul puisse vraiment commencer à servir le Seigneur. Mais toutes ces années de préparation n'étaient pas vaines. Il fallait un homme comme Paul, avec les compétences d'un Paul, pour que l'évangile puisse vraiment rayonner ensuite sur toutes les nations de la terre. Et il fallait un Barnabas, un homme de confiance, un homme qui fait confiance, un fils de la prophétie. Il avait peut-être, on peut s'imaginer, il avait peut-être reçu des choses sur son cœur par rapport à Saul. Il savait que cet homme-là a été choisi aussi par Dieu. Et puis, voilà, les choses ne sont pas faites comme ça, par hasard, mais c'était vraiment conduit par le Seigneur. Et puis, ensuite, il y a un temps de famine qui va arriver sur la région de la Judée. Et puis, des prophètes vont être avertis à l'avance. Et suite à ça, l'église à Antioche va se décider de faire une collecte et d'envoyer Barnabas et Saul apporter cet argent aux chrétiens de la région. Je lis Acte 11, verset 30. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et puis, ensuite, bon là, il y a un autre récit dans Acte 12, mais à la fin du verset 25, on retrouve nos deux amis, Barnabas et Saul, après, donc acte 12, verset 25, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Hein? Donc, ils prennent ce Jean surnommé Marc qui était là à Jérusalem après s'être acquitté de leur message. Mais ici, message, c'est pas très bien traduit parce que c'est le terme en grec, c'est diaconia. Et puis, c'était plutôt diaconia, c'est plutôt l'idée du service, du ministère, de l'office. Donc, moi, je pense pas qu'ils sont venus prêcher à Jérusalem, nos deux amis là. Ils sont plutôt venus apporter l'argent. Ils ont rendu, ils ont fait ce service qu'on leur avait demandé. Et puis, en retournant en direction d'Antioche, ben, avec eux, ils ont pris Jean, surnommé Marc. Et d'ailleurs, c'est le prochain personnage qu'on va étudier. Et juste quelques instants, on reste encore sur Barnabas, acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahène, qui avait été élevé avec Hérode le tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ici, on est face à quoi? On est face au récit du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Hein. Et on voit que Barnabas, mais également Saul, mais Saul il est en tout dernier dans la liste, étaient considérés par l'église d'Antioche comme des prophètes et des docteurs. Hein? Ça veut dire que Saul, il a dû commencer là aussi à vraiment exhorter aussi l'église et Barnabas de même. Donc, deuxième personnage. On est à quelle heure là?
Moins 10.
Moins 10, hein, ça file, hein.
Alexandre,
Oui,
j'aimerais juste te poser une question.
mais
Il y
oui.
a Barabbas et Barnabas. Non, non, dans ce que tu viens de dire, c'est Barnabbas.
Barnabas,
Barnabas.
ouais.
Mais il y a Barabbas aussi. Puis,
Ah, mais ça c'est dans les évangiles.
ça n'a rien.
C'est
Juste
juste, hein,
avant.
Barabbas, c'est le brigand
C'est celui qui devait
qui va
être
être
tué.
libéré, ouais. Ouais. Ouais.
Mais le nom,
Non,
ça me.
c'est deux personnages vraiment complètement différents. Ouais.
Non, c'est deux personnages différents, d'accord, mais le nom, parce qu'il n'y a qu'un R de différence, ça change beaucoup la signification du.
Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Hein. Ça, je sais pas. Parce que Barnabas, je vous ai dit, c'était quoi? C'est même pas. C'est pas de l'hébreu, hein, c'est de l'araméen. L'araméen, c'était entre guillemets l'hébreu parlé de l'époque de Jésus. Alors, est-ce que Barabbas, faudra aller regarder? Mais ça, comme ça, je ne sais pas. Si c'est les mêmes, si c'est aussi l'araméen de l'époque, ou si ça a une autre origine, je ne sais pas. Ouais, je pourrais aller regarder, je te redirai. Ouais.
C'est juste parce que ça se ressemble
Ça
beaucoup, c'est ça
ressemble, ouais, en effet. Ouais. Mais ce
qui
n'est pas sûr.
m'intrigue.
C'est pas sûr, hein, parce que les langues anciennes, c'est complexe, varié. Ouais. Donc voilà. Moi, je vous propose, vu que l'heure avance, on est déjà à moins 10, et qu'on a fait deux personnages, moi, je vous propose qu'on fasse ça deux fois, parce qu'il nous reste encore deux personnages, et puis la tête, elle va exploser. Je peux faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Hein. Parce que on va bien sûr pas voir tous les voyages, les trois voyages en détail missionnaires, mais on va regarder un petit peu quand même certains, on verra à la prochaine étude, certains détails comme ça de leur voyage missionnaire. On va étudier ce Jean surnommé Marc, et puis ensuite on finira avec Timothée. Et puis Timothée, c'est aussi extrêmement riche. J'ai pris qu'une petite partie de Timothée parce qu'il est souvent cité dans la Bible. Il y a deux lettres qui lui ont été adressées aussi par l'apôtre Paul. Mais ce que je trouvais intéressant en étudiant ceci, comment est-ce que ça m'est venu à cœur? Tout simplement parce que c'est pour les enfants, pour l'école du dimanche, il y avait une étude sur ce sujet, pas sur Paul, mais sur les trois compagnons de Paul là. C'était pas c'était pas fouillé, je veux dire, voilà, j'ai ramené deux, trois éléments. Mais je trouvais intéressant à un moment donné de s'arrêter sur des serviteurs de Dieu, de voir un peu leurs forces, leurs faiblesses. Parce que ben, Barnabas, ce grand amour, cette grande confiance qu'il avait dans les gens, vous verrez par la suite que malheureusement, ça va le desservir aussi. Hein. Et puis, on voit aussi que c'est des gens qui venaient pas de nulle part. Alors Dieu a pris aussi des serviteurs qui n'avaient aucune formation. Hein, quand on voit les premiers disciples du Seigneur, il a pris un Pierre. Pierre n'était certainement pas un homme qui avait fait des grandes écoles. Ce n'était pas un érudit. Hein. D'ailleurs, quand arrive la Pentecôte et puis que Pierre commence à prêcher, les gens qui sont autour, ils vont dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent nous parler de ces choses-là? Ils sont pas formés. Ils étaient tout surpris. Donc Dieu peut utiliser autant des intellectuels que des gens qui sont plus pratiques. Mais Dieu n'est pas contre les intellectuels. Hein. Des fois, moi, j'entends des discours de dire, ah non, mais pourquoi faire une école biblique? Ça sert à rien. C'est que le Saint-Esprit qui me conduit. Ben non, on voit qu'il y a eu un long temps de préparation pour l'apôtre Paul. Et puis, certainement aussi pour Barnabas, il venait pas de nulle part, c'était quelqu'un avec de l'argent. Donc s'il avait de l'argent, il avait certainement aussi en tant qu'enfant déjà fait partie d'une famille riche. Et puis il avait certainement pu recevoir aussi une longue formation. La personne qu'on étudiera ensuite, Jean-Marc, vous verrez que c'est aussi quelqu'un qui vient d'une famille aisée. C'est intéressant de voir comment Dieu choisit les personnes. C'est pas forcément que parmi les plus pauvres et puis les plus démunis. Dieu, en effet, peut se lever une armée parmi ces gens-là, mais il choisit aussi et il prépare à l'avance des gens qualifiés pour son service. Alors, par rapport à Barnabas, je pense que c'était un de ses points faibles, c'était cette confiance qui était trop grande. Et j'ai entendu là une conférence dernièrement sur, bon, il est décédé, Hugo Chavez, qui était président du Venezuela. C'est un homme catholique, hein, bon, avec ses forces et ses faiblesses, justement. Et puis, c'était quelqu'un qui faisait confiance facilement. C'était un homme qui avait bon cœur. Et puis, on nous expliquait que ben, là-bas, l'Église catholique au Venezuela, elle est très influente. Et il y avait un cardinal qui devait être nommé. Et le cardinal que voyait l'Église catholique, c'était quelqu'un qui était vraiment un anti Hugo Chavez. Et puis, Hugo Chavez, il le savait, il se méfiait. Parce qu'il avait peur qu'une fois ce cardinal nommé, il vienne à se retourner contre lui et puis qu'il mette la pagaille dans le pays, en fait. Hein, parce que vu que l'Église catholique est certainement toujours écoutée dans ce pays-là, si vous avez un cardinal qui est contre vous, ben, c'est vraiment pas un bon point que vous marquez. Et puis, en fait, le cardinal est venu devant Hugo Chavez pratiquement rampant en disant que non, 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 mais jamais je dirai quelque chose de négatif contre vous. Et puis, Hugo Chavez n'était pas trop partant. Après, il y a eu un représentant du Vatican qui est venu aussi pour appuyer ce cardinal. Non, 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 mais vous savez, il s'engage, il sera sérieux, il sera de votre côté. Et puis, en fait, ben, lui, il a fait confiance. Et puis, à peine une fois nommé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le cardinal s'est retourné. Et puis, il a commencé à dire tout plein de choses négatives, sans jamais s'en excuser d'Hugo Chavez. Alors voilà, c'est vrai que faire confiance, c'est bien, mais ça, c'est limite. Et lesquelles, voilà, c'est que Dieu nous donne discernement aussi, pour qu'on puisse être des Barnabas, pour ouvrir les portes quand il faut ouvrir, et puis qu'on puisse aussi avoir du discernement dans les moments où peut-être on a des situations à trancher. Comme on le verra dans la deuxième partie d'étude, où à un moment donné, il y avait une situation à trancher et Barnabas, à cause de sa trop grande confiance, a pas pris la bonne décision. Petite remarque, petite question. Ça a été pour vous? Bah, vous aurez au moins appris quelque chose, hein, c'est que l'inventeur du télésiège, c'est qui? C'est Paul.
Tu l'as pas croisé la semaine passée dans la rue, non?
Ah, mais voilà, je trouvais intéressant de voir quand même que les choses ne sont pas faites comme ça par hasard, avec une petite baguette magique. Non, on voit qu'il y a vraiment l'œuvre de Dieu derrière tout ça. Derrière ces rencontres, derrière toute cette préparation, on voit bien sûr la grâce du Seigneur, hein, qui arrive à. Qui aurait voulu aller choisir un Saul, hein, persécuteur de l'Église? Qui, franchement? Ça, il fallait la folie de Dieu pour savoir ce qu'il y avait sur le cœur de cet homme-là. Et bon, il a fallu aussi une manifestation incroyablement puissante. Mais parce que Dieu l'a vraiment arrêté complètement sur ce chemin de Damas. Mais le Seigneur, il peut faire la même chose aujourd'hui, hein. Il peut transformer aussi des vies et apporter des personnes qui peut-être on s'imaginerait pas aujourd'hui pour en faire des grands serviteurs et des grandes servantes de l'Éternel, hein.
Juste dire une chose, c'est que
Oui.
Paul, Dieu a choisi Paul aussi parce que c'est en fait une personne sincère et déterminée. Déterminée dans une mauvaise cause, mais au moins déterminée. Et ça, on voit actuellement aussi beaucoup de gens, notamment des djihadistes, qui recherchent vraiment Dieu, mais qui trouvent Jésus, hein. Donc, c'est cet esprit-là que Dieu aime aussi, hein, chez les gens, c'est cette détermination, même dans l'erreur, parce que l'erreur, après, elle peut être corrigée.
C'est vrai que la vie chrétienne, c'est un long parcours, pas tout simple, hein. Mais Paul, il pourra dire à la fin de sa vie, j'ai mené le bon combat. Alléluia. Si Paul a pu le dire alors qu'il a vécu des choses terribles, la persécution, il l'avait véritablement connue et vécue, et même dans son propre corps, hein. C'était pas seulement verbal, des fois ça peut être verbal. Moi dernièrement, là, j'ai une personne qui m'a agressé, mais parce qu'elle savait que j'étais pasteur. J'ai pas compris tout de suite pourquoi elle m'agressait. Mais parce que j'avais la figure du pasteur, puis tout d'un coup c'est sorti, hein. Mais c'était pas physique. Mais ce sont des témoins forts pour nous. Soyons zélés pour le Seigneur. Persévérons aussi dans la maison du Seigneur. Et puis, parce qu'on sait qu'il y a, voilà, les œuvres qu'on pourra faire avec Dieu, elles nous précéderont au ciel. On ne fait pas ça d'une manière vaine, même si des fois c'est difficile, même si des fois c'est contraignant. Mais pour ces gens-là, c'était contraignant, hein. Et les voyages missionnaires qu'ils ont fait, là aussi, hein, ils étaient zélés pour Dieu, hein. Ils ont fait des sacrifices aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on. Voilà, on ne doit pas partir non plus dans l'autre extrême, hein, et puis mettre les gens sous la pression, sous la contrainte, et les rendre fidèles jusqu'à la mort à l'œuvre du Seigneur. Non, Dieu, il fait grâce aussi, hein, et puis il veut qu'on puisse travailler avec un cœur léger, hein. Mais n'empêche que ces gens-là, quelque part, ce zèle-là, le zèle d'un Paul, l'amour, la foi d'un Barnabas, et puis on verra les personnes aussi qui suivront. Ouais, les choses ne sont pas faites toutes seules, hein. Ça n'a pas été tout facile, mais on sait, après toutes les bénédictions qui ont suivi. Et pour nos vies, c'est la même chose, même si on a l'impression que des fois on patine, mais on patine pas en vain. Et puis même si on recule pas en vain. Ça, c'est ce qui est merveilleux. Tu peux avancer puis tout recevoir. Mais si tu perds ton âme, ça sert à quoi? T'es le dernier des hommes, t'es la dernière des femmes. Alors, je m'arrête ici.
Où?
Là. À Neuchâtel.